Francis Jammes, Clara Delebeuze ou l'histoire d'une ancienne jeune fille. À Clara Delebeuze. Au fond du vieux jardin, plein de tulipes, à mémoire pure qui console ma vie cruelle, repose. Je ne t'ai jamais trahi et tu ne m'as jamais trompé. Tu es morte avant que je fusse née, parce qu'au ciel, il y a d'admirables roses. Ô mon enfant, ô mon ami, j'évoque en ce moment le jour où, par une blanche tombée d'automne, tu tiens un petit arrosoir sur des buis que tu arroses. J'évoque aussi la cour des récréations taciturnes où tu sembles, en habit de communion, je ne sais quel encensoir de corolles écloses. Assiste-moi toujours. Lorsque je suis broyé, quand je traîne sous les ormeaux de la petite ville, aux heures bleues de l'angélus nocturne, mon doute et mon orgueil posent la main sur mon front qui bourdonne ta blanche main. Pose. Prends ce petit livre. Oh, il est fait sans art, mais je souris parce que je t'aime à cause de toi et que tu n'as jamais su, oh, cueilleuse de papillons, pas plus que moi, selon quelle formule il faut t'aimer en vers, il faut pleurer en prose. Je te donne mon âme, jette-la aux pieds de Dieu, je ne sais pas ce qu'elle vaut. En te parlant, mon sourire sanglote. C'est toi qui es venu à moi sur les lilas de ma douleur. Dis adieu, ô mon aimé, que je ne veux plus me souvenir de la terre morose. Clara Delebeuze s'éveille sous ses boucles et bâille contre son bras nu. Elle est blonde et ronde et ses yeux ont la couleur du ciel quand il fait beau temps. Le soleil de ses anciennes grandes vacances fait bouger sur les rideaux transparents d'indiennes à ramages à la fenêtre de l'est l'ombre du tulipier. Il est 8 heures. La pure lumière se glisse dans la chambre, éclairant contre la tapisserie bleue et gaie le portrait de Joachim Delebeuze, grand-oncle de Clara. Et la petite jeune fille bâille encore, s'étire et songe. Comment était-il, oncle Joachim Delebeuze? Est-ce que la maison de la Pointe-à-Pitre, où il est mort, était belle? La petite miniature que grand-mère m'a montrée, et qui est dans le tiroir d'en bas, est celle de sa fiancée. Elle se nommait Laure. Elle était bien jolie, avec des boucles de cheveux très noires, un collier de corail et un corsage de mousseline blanche rayé de vert. Est-ce qu'elle est enterrée près de l'oncle? Il avait eu un duel, c'est M. Dastin qui l'a dit. Est-ce que Laure était plus jolie que maman? Clara Delebeuze s'habille, puis fait sa prière. La maison s'éveille. L'escalier grince. Le ramage des canaris monte du vestibule. Elle descend dans la salle à manger et prend dans le comptoir un raisin dont les grains luisent à ses doigts légers. 9 heures déjà, se dit-elle. Maman se sera arrêtée en revenant de la messe. 9 heures sonne un trumeau qui représente une église entourée d'ormeaux. Le timbre de la petite pendule encastrée dans le joli clocher peint à l'huile est rauque et doux. À midi et le soir, il imite l'angélus. Sous les arbres, il y a une bergère, un berger et des moutons. Clara Delebeuze considère la bergère et le berger. Ils causent, pense-t-elle, et se marieront dans la chapelle du tableau. Auront-ils du bonheur? Je souhaite que oui, mais puisque c'est dans un tableau, ils ne se marieront pas. Elle met son grand chapeau de soleil orné de reines marguerites et de narcisses. et va sur le perron. Sur la pelouse brillante, le paon ondule lentement. Le paon, songe-t-elle, est l'image de l'orgueil. Moi, je suis orgueilleuse. C'est Monsieur l'aumônier qui me l'a dit. Mais tout le monde ne parle pas le nom, porte pas le nom d'elle les beuses. Ah, voici maman qui arrive. Mon enfant, dit Madame Nellebeuse à sa fille après l'avoir baisée au front, il vous faudra mettre aujourd'hui la robe que vous a donnée tante Adénaïde. Monsieur d'Astin s'est fait annoncer. Il arrivera vers midi, mais ce sera bien à temps de vous habiller vers 11 heures. Et Clara, tandis que Madame Nellebeuse entre dans la maison, se rend au verger. Elle longe les framboisiers obscurs et les pommiers coniques et luisants. Sur des roses, il y a des sétoines. L'azur tremble sur les buis. Mais voici qu'à la sérénité de tout à l'heure succède, dans l'âme de la jeune fille, une sorte de tristesse pareille à celle de ce beau jour doré. Soudain, et sans que rien de subit semble les avoir appelés, des scrupules intenses taraudent l'adolescente. « mon Dieu !» se dit-elle avec « Ayez pitié de moi. J'ai eu de mauvaises pensées. Où irais-je maintenant si je venais à mourir? Suis-je prête à apparaître devant Dieu? J'ai eu des pensées impures au sujet du grand-oncle Joachim et de sa fiancée Laure. Je me suis demandé s'il s'asseyait sur ses genoux quand ils étaient fiancés. Et cette peur du péché, torture que peut seule comprendre une âme catholique, bouleverse en ce moment l'âme douce de Clara. Elle arrive au bout du verger et, près de la tonnelle, elle ouvre la barrière verte et gagne la partie la plus ombreuse du parc. Là sont des vernis du Japon, des lauriers, de faux pistachiers, des liquidambars et des érables. Sous la voûte de feuillage règne une espèce de nuit, même lorsque la canicule pose une lumière de silence aux cimes luisantes des arbres. Bientôt la jeune fille quitte le parc et franchit la grille où des initiales des ailes lébeuses dans une ferronnerie ovale s'encadre de fleurs de lys mouillées. Et, quittant le domaine, elle se trouve sur le chemin craquelé par la chaleur entre les fougères des talus. Un bœuf choque une écorce, un lézard se glisse, une cigale se tait. Ce chemin conduit à la chapelle ancienne et pauvre. Pour s'y rendre, Clara traverse le cimetière où sont des tertres ornés de yucca, de yais, de buis, de vialliers, de menthe poussiéreuse et de ces plantes que l'on appelle cabaret des oiseaux à cause de leurs feuilles creuses où séjournent de l'eau. Clara Nellebeuse entre dans la chapelle. Une impression glaciale la saisit. Il lui semble que des gouttes de pluie se glissent le long de son corps tiède, car sous son lierre et ses briques, sous l'azur torride, la chaumière de Dieu a fraîchi comme une cruche. L'autel est pauvre et beau, à peine éclairé par deux fenêtres aux petits carreaux en losange, d'où tombe une tulle campagnard soigneusement empesée. De chaque côté du tabernacle sont trois grands chandeliers dorés. À gauche, il y a une vierge dans une niche du mur et à droite, dans une niche pareille, un Saint Joseph. À leurs pieds, de petits vases de loterie, si dorés et si verts qu'ils réjouissent le cœur, contiennent d'humbles fleurs artificielles. Au milieu de l'église, sur un fût brisé, une pierre creusée comme un calice enferme l'eau bénite, pleine d'ombre. Sous la tribune, semblable aux crèches des étables, la grille du confessionnal est cachée par une lustrine verte, luisante et roide. Cet asile pacifique n'a point de nef, mais un plafond de bois que recouvre une chaude azur. Clara del Nebeuse s'agenouille et prie. « Mon Dieu, murmure-t-elle, préservez-moi des mauvaises pensées. Je veux être une petite fille pure. Éloignez de moi la curiosité. Ne me donnez pas envie de lire dans le tiroir de bonne maman les lettres de l'oncle Joachim. Je suis une âme tourmentée. Sainte Vierge, intercédez pour nous. Faites que je n'aille pas en enfer, mon Dieu, que je suis malheureuse. J'ai peur d'être damnée. Mon Dieu, ne me séparez pas de maman ni de petit-père. Faites que nous soyons ensemble dans le ciel. Pardonnez-moi. » Elle fait une génuflexion devant l'autel, se signe, prend de l'eau bénite et sort. Un moment, elle est éblouie par le jour. Au loin, par-delà les coteaux d'ombre, les Pyrénées sont comme des cascades célestes. Clara repasse par le cimetière. Là est le tombeau des Del Nebeuse. Bernard Del Nebeuse, 1690, Jean Del Nebeuse, 1715, Jean Del Nebeuse, 1780, Élisabeth Del Nebeuse, 1781, Tristan Del Nebeuse, 1804, Amélina Del Nebeuse, 1820, et d'autres Del Nebeuse. À côté se trouve une sépulture isolée pendant laquelle a fleuri une touffe de ces fleurs de velours rose que l'on confond parfois avec la belle ladone officinale, parce que leur nom est Amaryllis Belladonnae. La pierre porte cette simple inscription, Laura Lopez, 1805. Et Clara Del Nebeuse n'a jamais bien su qui fut cette personne. C'était une amie de la famille, lui a-t-on dit. Et elle aime cette tombe dont prend soin bonne maman, qui a planté là ses lys de feu, cette mémoire inconnue dont ne subsiste que le doux nom. Elle s'appelait Laura, c'est-à-dire presque Laure, comme la fiancée du grand-oncle Joachim. Et l'enfant rêve encore. Comment était-il le cimetière de la Pointe à Pitre où repose l'autre Laure et son fiancé, l'oncle Joachim? Est-ce qu'il y a une église pareille à celle-ci? Moi, je me figure la Pointe à Pitre à cause d'une gravure du musée des familles. Il y a des forêts parfumées où les nègres se promènent. Mais comment était l'eau? Elle devait être grande et marchait lentement. Est-ce qu'ils s'embrassaient? Et Clara, soudain, rougit et chasse la pensée. Sa grâce penche un peu vers le sol. Cette grâce charmante et maladroite d'une enfant de 16 ans. Par le verger, elle repasse et, remontant le perron, sourit au jardinier qui porte des laitues. Bonne maman travaille à sa tapisserie et petit père, assis non loin d'elle, fume sa pipe. Et Robinson, le chien, dont sort sur la pierre en rond, le nez contre la queue. « Bonjour, bonne maman. Bonjour, petit père. » Et l'on s'embrasse. « Avez-vous été heureux à la chasse, petit père ?»«
Oui, ma chérie. Va voir à l'office. Mais fais vite, tu sais que M. Dantin ne tardera pas à arriver. »
Et Gertrude montre à Clara deux jolies perdrix aux pieds rouges, dont les plumes ardoisées, rousses et noires, sont douces comme de la soie. Clara Del Nebeuse va dans sa chambre s'habiller. Elle refait ses boucles lourdes et dorées, les enroule et les lisse au moule de buis.
Elle enferme son corps frais dans la robe de mousseline blanche que lui a donnée sa tante Aménaïde. Une ceinture d'un bleu céleste pend de la taille haute, et jusqu'à terre, le corps n'est qu'une ligne simple, presque nue. Une chaîne d'argent semble couler vers la gorge creuse. Les bras nus ont chacun une fossette qui semble sourire. Et la bouche sourit aussi, la lèvre inférieure écarlate, à peine un peu épaisse et fendue. Et le nez un peu large, très pur, à peine relevé. Et le front étroit et haut. Et les oreilles presque trop petites, perdues sous les repentirs. Sur le palier, « Vous êtes jolie, mon enfant, » dit Madame Nelébeuse. « Oh, il était temps que vous fussiez habillée, et la cloche sonne. C'est, je pense, Monsieur Dostin. » Elles sortent. Il est midi. La canicule tombe des ormeaux bleus et noirs où éclate le cri d'une cigale. L'air tremble et sue. Un souffle chaud, rempli d'âmes de fleurs lourdes, se traîne. Clara Delébeuse se tient droite sur le perron, une jambe un peu en avant, et cette grâce de couventine est si naturelle qu'elle en paraît puissante. On songe à quelque eau vive traversée de soleil ou à une cerise mordue par un oiseau. Par l'allée d'anémone du Japon, la lente voiture de M. Dastin s'engage, puis s'arrête au rond-point du tulipier qu'entourent les lianes des bignonniers d'où pendent ces longues corolles jaunes et rouges dont les enfants s'amusent. Monsieur le marquis d'Austin met pied à terre, péniblement, car il a une jambe de bois. Appuyé sur sa canne, il agite son chapeau. Il est très grand. Le flot dressé de ses cheveux ressemble à une tulipe blanche. Sa taille mince est serrée dans un habit qui, à la base, a la roideur d'une crinoline. Il gravit le perron au bras de Madame Monsieur Delébeuse, salue ces dames qui l'attendent et les suit au salon. Sa voix est douce et il dit en s'asseyant, « Oh, ma jambe de bois ne peut me laisser en paix. Elle a depuis 2 semaines sa crise de goutte. » Et bonne maman d'étange avec un sourire enfantin. « Oh, c'est comme moi, monsieur Dastin. Voici 10 jours que s'enflamme ma main droite. »« Pour Dieu, encore votre main n'est-elle pas une bûche et pouvez-vous l'attendre? Et que dit cette belle enfant ?» Il considère Clara assise en face de lui contre le paravent. Sur ce paravent, il y a des arbres aux fruits jaunes sous lesquels sont étendus des bergers et des bergères. On y voit aussi une chasse aux cerfs. Le cerf traverse un ruisseau où sont des angéliques roses. Les chiens, langue pendante, le serrent de près. Au loin, sur une pelouse, 2 petits cavaliers en tricorne, la trompe en sautoir, s'efforcent à les rejoindre. Et les arbres aux beaux fruits sont sur un fond blanc, et la rivière et les arbres sont bleus. Ce doit représenter une tombée dorée de septembre. Il semble que les cimes des ormeaux y soient agitées par un vent de grandes vacances au déclin. Et contre ce paravent, les boucles de Clara Delébeuse se détachent des fruits peints, des fruits ronds et beaux comme des grenades qui seraient des pêches. Elle ne dit rien et sourit, embarrassée et charmante. Tandis que sa mère répond pour elle, 1000 pensées vivent sous ce front lisse. Elle songe que M. Dastin l'intimide, bien que depuis longtemps elle le connaisse et l'aime, depuis toute petite, depuis toujours. Cependant, il lui faisait peur, jadis, quand il racontait son voyage à la Chine et les missionnaires torturés. C'est lui qui donna ces deux jolies gravures, dont l'une représente une femme mongole de distinction en habit de cérémonie d'été, et l'autre la fille aînée de l'empereur. La Chine est un vilain pays qui donne envie de vomir, et où l'on torture le Christ, un pays qui a la même odeur vilaine et noire que le coffret qui est là et qui sent le camphre et le poivre. C'est le pays du démon. Ah, combien Clara de Léveuse préférerait visiter les îles de la Guadeloupe, où les bonnes négresses se font catholiques, où sont morts l'oncle Joachim et sa fiancée Laure, qui s'aimaient dans les fleurs. Mais M. Dastin est très bon pour sa petite amie, et tout récemment il lui a donné un bracelet à la mode, une petite chaîne de forçat en or terminée par un boulet. Il était, paraît-il, le meilleur ami du grand-oncle Joachim, mais il ne parle presque jamais de lui. Tout justement, aujourd'hui, comme l'on vient de passer à la salle à manger, la conversation tombe sur l'oncle Joachim au sujet de la jolie décoration de fleurs de capucine qui est au milieu de la table. « Mon cher Henri, dit Monsieur Dastin, oh, je me souviens que lors du dîner d'adieu que donna le frère de votre père, à la veille de son départ pour l'Amérique, il y avait une garniture de nappes dans le même goût. Ce fut un repas rempli de gaieté à Bordeaux, au restaurant du Brésil. Nous bûmes à nos futurs amours. Alors, certes, je ne pensais point que les siennes finiraient si tragiquement, ni qu'à mon retour de la Chine, je dus s'ensevelir dans ce pays sa bien-aimée Laura. Monsieur Dastin se tait. Il a oublié la présence de la jeune fille. Un sourire de Madame Delébeuse la lui rappelle. « Oh, vous avez fait-il des melons magnifiques ?»« Et le terrain est très sableux, » répond Madame Delébeuse. « Mais ne reconnaissez-vous point leur espèce? Elle est de ces fameuses graines que vous eûtes la gracieuseté de nous offrir il y a 6 ans et que vous disiez tenir de la fille d'un poète de la Chine ou de la fille d'un mandarin, c'est tout comme... Aujourd'hui, le vieux garçon que je suis ne reconnaît plus les melons et les mandarines, je le crains. » Un pli s'est formé entre les sourcils de Clara Delébeuse. Les mots qu'on a prononcés le marquis au sujet de l'oncle Joachim la bouleversent. Elle se répète, il a dit « à mon retour de la Chine ». Et il a dit « à mon retour de la Chine, j'ai enseveli dans ce pays sa bien-aimée Laura ». On lui avait donc menti à elle, à Clara. Elle est donc morte ici, Laura, ou dans la maison. Mais elle ne s'appelait pas Laure, sa fiancée, puisqu'il l'appelait Laura, du même nom que la femme de la tombe. Mais comment? Pourquoi grand-mère lui avait-elle dit, en lui montrant la miniature, « C'est le portrait de mademoiselle Laure, la fiancée de ton grand-oncle Joachim. Où sont-ils morts, grand-mère ? Avait-elle demandé. Ben là-bas, à la pointe à pitre. Alors c'était pas vrai qu'ils étaient là-bas. Mais si, puisque sur les lettres du tiroir il y a écrit Guadeloupe. Il a dit, je l'ai enseveli dans ce pays. Mais vous n'avez point d'appétit, mon enfant, remarque Madame Delébeuse. Elle répond, je suis un peu fatiguée, petite mère, et bois un peu d'eau pour essayer de se donner faim. Et tandis que la conversation reprend autour d'elle, de nouveau elle se remémore. Il a enseveli dans ce pays sa bien-aimée Laura. Elle évoque le cimetière où sont les cabarets des oiseaux, les belles ladones chaudes et roses et les menthes poussiéreuses. Elle se souvient que, dans un coin d'ombre, des tomates échappées de quelque misérable potager ont mûri. Et sa pensée, à travers les ronces, lit encore cette inscription « Laura Lopez, 1805 ». La nuit claire coule dans le ciel. Une de ces nuits tièdes où les longs moustiques désertent la rivière pour la lueur de la lampe. Cet après-dîner, Monsieur Dastin, qui s'est résolu à rester, joue aux échecs avec Monsieur Delébeuse. Madame d'Étanges et sa fille travaillent à leur tapisserie. Clara Delébeuse, les bras derrière le dos, regarde par la fenêtre qui donne sur le parc l'ombre remuée dans les feuillages. Une vague inquiétude l'oppresse. Elle peut être absolument heureuse. Toujours, même au soir calme comme celui-ci, son âme éprouve une angoisse qui semble nécessitée par le bonheur. Lorsque Clara Delébeuse était petite enfant et que le don d'une poupée la comblait d'abord de joie, elle l'abandonnait tout à coup, sans que ses parents comprissent la cause de ce changement subit d'humeur. Elle devenait soudain morose et les sourcils froncés jetait, pour n'y plus toucher, sa poupée dans un coin. « Cette enfant est inconstante, » disait Madame d'Étanges. Mais non, c'était qu'au plus fort de la joie de posséder ce jouet, Clara Delébeuse venait d'y découvrir l'insignifiante mais inévitable tare dont rien dans ce monde n'est exempt. Elle avait remarqué là, sur l'étoffe rose emplie de soie qui stimulait la chair, une petite tache qu'elle n'avait pu effacer. « Ma poupée est imparfaite, » se disait-elle. « Quel dommage que dans le magasin, on n'en ait pas choisi une autre, enfin, n'importe laquelle !» Et maintenant, l'époque des jouets passés, dans les moments les plus grandes ivresses, c'est-à-dire au sortir du confessionnal, quand l'absolution et la bonne volonté règnent dans son cœur, surgit tout à coup le péché oublié. C'est le plus grand, toujours. Mais l'a-t-elle seulement oublié ? Ne l'a-t-elle pas caché exprès à son confesseur? Ce doute la taraude. Est-ce qu'elle sait, elle? Peut-elle affirmer que non? Alors elle est damnée? Cette crainte éloignée, une autre, quelconque, survient, la torture parfois jusque dans ses rêves, dont elle s'éveille en sursaut avec une sensation d'étouffement et de vertige. « Ce sont des vapeurs, mon enfant, » dit Madame Delébeuse. Et Gertrude prépare pour Clara quelque infusion de plantain. « Échec et mat, » dit Monsieur Dastin à Delébeuse, qui sourit. Clara s'est retournée, la tête haute, ses beaux bras nus toujours derrière le dos. Elle sourit dans ses boucles lisses et regarde le jeu. Elle aime, sans bien les connaître, ces pièces polies qui glissent sur l'échiquier dallé comme un palais. Elle s'assied, silencieuse, auprès de la lampe et ouvre un volume qu'elle a toujours vu là. C'est la Chine en miniature de Monsieur Breton, cadeau fait à Monsieur Delébeuse par son vieil ami Dastin. Clara Delébeuse regarde la gravure qui orne le chapitre sur la récolte du thé. Des singes roses gravissent une montagne au bord d'un ruisseau. L'un d'eux, assis auprès d'un arbre à thé, en embrasse le tronc qu'il secoue avec rage. Et des rameaux choient des feuilles et des fleurs que recueille un chinois à large culotte orange, aux pantoufles feutrées et courbes, à tunique bleue et aux chapeaux de paille en abat-jour. Non loin, un singe, qui a des gants blancs, suce un fruit. Clara de Lebeuse referme le volume. 10 heures sonnent. Elle embrasse tout le monde, va demander son chandelier à Gertrude et monte dans sa chambre. À se sentir seule, Clara de Lebeuse éprouve un soulagement. Non point qu'elle n'aime la société de ses chers parents, mais la solitude et la méditation apaisent un peu cette âme fragile. « Mon enfant, lui dit souvent l'aumônier des Ursulines, vos scrupules proviennent d'une délicatesse trop grande. Votre conscience est timorée, mais cela est chez vous la preuve d'une grande bonne volonté. » Clara de Lebeuse fait sa prière, puis se déshabille lentement, mais avec une pudeur excessive, la crainte de fixer trop longtemps ce que cache la robe de tante Aménaïde. Elle se dit qu'il est permis de regarder ses bras exposés à l'air tout le jour, mais qu'il ne faut pas toucher ou regarder à son corps inutilement, en dehors de sa toilette. Elle se couche, pose l'éteignoir de cuivre sur la chandelle, mais ne s'endort point tout de suite. C'est le moment où son âme se recroqueville. Alors elle revoit mieux les choses en pensée qu'elle ne les a vues directement. Elle songe à M. d'Astin, à ce qu'il a dit du grand-oncle Joachim, de la fiancée Lourd, un mystère que l'on fait autour de leur mémoire. Puis elle se revoit dans le parc. Sous ses cils clos, elle perçoit nettement la pelouse qui dévale au bas du perron. Puis une cime d'ormeaux, une touffe de bambou, puis une urne de pierre grise dans la perspective de l'allée ombreuse. Puis s'endort.